premier étage. Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pios. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'Envolée, l'émission contre toutes les prisons et les enfermements qui donne la parole aux premiers et premières concernés. Je vous rappelle nos contacts. Vous pouvez nous écrire par la poste à l'envolée-fpp, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Et vous pouvez nous téléphoner ou nous laisser des messages au 07 53 10 31 95 avec signal si vous préférez. Puis vous pouvez nous retrouver sur le site internet l'envolée.net. Et vous pouvez nous contacter par email contact@l'envolée.net. L'envolée, c'est avec deux E mais pas d'accent, tout attaché. Voilà, aujourd'hui c'est une émission hors les murs qui va être diffusée le 16 janvier 2026 sur Radio Fréquence Paris Pluriel en région parisienne, puis sur une quinzaine d'autres radios associatives en France, on les remercie. Et dans cette émission hors les murs, et ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous rediffuser une émission de Minuit Décousu qui s'appelle Permis de tuer. Et on va commencer par écouter l'audio d'un copain d'Alarmphone. Donc Alarmphone, c'est un réseau international qui propose un numéro d'alarme pour les personnes qui sont en détresse en mer ou qui sont refoulées en mer aux frontières. Donc pour toutes les personnes qui traversent la mer au péril de leur vie pour traverser les frontières, c'est un réseau de solidarité pour les aider à traverser sans y rester. Voilà. Donc Alarmphone s'associe à l'organisation des commémorations du CIF qui vont avoir lieu le 6 février 2026 et qui ont lieu tous les ans. Donc on va vous mettre toutes les informations et les liens intéressants d'information sur le podcast de cette émission qu'on va mettre sur le site internet de l'Envolée. Mais pour l'heure, on va vous laisser écouter donc le copain d'Alarmphone qui présente les commémorations et ensuite d'autres personnes qui font partie d'Alarmphone et qui présentent aussi les commémorations.
Et salut l'Envolée et merci pour l'invitation à venir parler des commémorations et du coup de toutes les personnes qui disparaissent et meurent aux frontières. Du coup depuis 2014, des collectifs de proches et de familles de disparus sont mobilisés aux côtés d'Alarmphone et aujourd'hui de plein d'autres organisations et collectifs à travers le monde pour célébrer tous les 6 février des commémorations en souvenir du massacre de Taraval. Ces commémorations, c'est pour nous l'occasion de rappeler que les disparus et les morts et mortes aux frontières, c'est pas que des chiffres, mais c'est avant tout des personnes et de nombreuses familles et proches dévastées par la disparition. Et pour nous, c'est aussi l'occasion de rappeler qu'il y a des responsables à ces disparitions aux frontières et que c'est notamment l'Union européenne et ses politiques racistes d'externalisation des frontières, de durcissement de l'obtention des visas, de financement de technologies et de politiques de sécurisation dans les pays de départ et de passage qui est responsable de tous ces morts et ces mortes. coup, cette année, pour les collectifs qui organisent ces commémorations, ça faisait sens de se rapprocher, d'organiser ça en lien avec les collectifs de familles de victimes des violences policières et des violences d'État. Parce que ce soit dans les quartiers populaires, dans les prisons ou aux frontières, on pense que l'objectif et les mécanismes mis en place sont les mêmes, c'est-à-dire c'est des politiques racistes qui visent principalement les personnes non blanches, pauvres et issues de l'immigration. Et aussi que, oui, les mécanismes, même les technologies mises en place par les États et gouvernements des pays européens, il est le même à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières, quoi. D'ailleurs, on vient de sortir un épisode cette semaine de Chronique Amère qui parle des technologies mises en place pour sécuriser les frontières et financées par l'Union européenne au Maroc, au Sénégal, en Mauritanie, et on observe bien que c'est exactement les mêmes technologies, les mêmes mécanismes qui sont en place de répression, mais aussi de surveillance, quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire de plus que des commémorations, il y en a un peu partout dans le monde, que en France, il va y en avoir de ce que je sais, mais alors je sais pas tout. à Saint-Étienne, à Paris, à Marseille, à Grenoble. J'imagine à Briançon comme tous les ans, Toulouse, Rennes, enfin voilà, regardez un peu sur les sites militants de vos villes. Et vous pouvez retrouver aussi plein d'infos sur le site internet missingattheborders.org ou sur le site d'Alainfon, il y a aussi des infos. Je vais pas dire grand chose de plus parce que pour moi la commémoration c'est aussi une organisation collective, du coup ça fait plus de sens pour moi de lire le communiqué qui a été écrit collectivement cette année pour les commémorations du 6 février 2026. Et quand même, avant de vous quitter, j'avais envie de faire une petite annonce aussi, parce que avec l'équipe du podcast Chronique Amère, qui est un podcast qui est réalisé par des personnes d'Alarmphone, on est en train de préparer pour avant, ça sortira avant l'été sûrement, en mai-juin, deux épisodes sur la question de l'enfermement et de la détention au cours des parcours de migration. Il y aura un épisode qui parlera de la détention dans les pays de passage, au Maroc, en Turquie, en Libye, bien sûr, en Mauritanie, au Sénégal aussi, où il y a plein de personnes gambiennes incarcérées, en Grèce, où il y a eu récemment là des collectifs de personnes soudanaises qui ont fait des grèves de la faim en prison en Grèce. Voilà, du coup on a envie de parler un peu de tout ça, et un deuxième épisode qui parlera plus de la détention à l'arrivée en Europe, avec, bien sûr, on parlera des centres de rétention, mais pas que, parce qu'il y a aussi plein de personnes incarcérées dans des prisons en France, en Belgique, en Angleterre et en Italie, et que du coup on avait envie aussi de rendre visible toutes ces personnes enfermées en Europe à leur arrivée. Voilà, mais je pense qu'on vous donnera toutes les infos pour aller écouter ces épisodes quand on les aura terminés. Du coup, je vous laisse avec la lecture du communiqué de cette année. 6 février 2026. Chaque vie vaut plus que leurs lois, leurs murs et leurs armes. Journée mondiale de lutte contre les régimes de mort aux frontières et pour exiger la vérité, la justice et la réparation pour les victimes de la migration et leurs familles. Nous, familles, amis, solidaires des personnes décédées et disparues à cause des violences d'État le long des routes migratoires et dans nos quartiers, nous rassemblerons de nouveau le 6 février, à l'occasion de la journée mondiale de commémoration. Le 6 février est une journée de lutte contre le régime de mort aux frontières et pour exiger la vérité, la justice et la réparation pour les victimes de la migration et leurs familles, pour les victimes du racisme des États. Le 6 février 2014, plus de 200 personnes parties des côtes marocaines ont tenté d'accéder à la nage à la plage de Tararal, dans l'enclave coloniale espagnole de Ceuta. Pour les empêcher d'arriver en terre espagnole, la Guardia Civile a utilisé du matériel anti-émeute, tandis que les militaires marocains, présents, ont laissé les personnes se noyer devant eux. 15 corps ont été retrouvés côté espagnol, des dizaines d'autres ont disparu. Les survivants survivantes ont été refoulés, certains ont péri côté marocain. Les commémorations sont à la fois des commémorations et des protestations qui visent à construire collectivement des processus qui peuvent soutenir les familles dans leurs revendications pour obtenir vérité et justice concernant le sort de leurs proches. Ainsi, des actions collectives de mémoire et de dénonciation sont organisées chaque année à travers le monde. Alors que les politiques racistes de tri, de contrôle et de répression des populations ne cessent de produire décès, disparitions forcées, traumatismes, nous refusons d'oublier les personnes victimes de ces crimes le long des routes migratoires, comme dans nos quartiers. À partir de cette année, la commémoration prend une dimension sans précédent, car pour la première fois, nous unissons avec force la lutte des familles des personnes disparues sur les routes migratoires à celle des familles des victimes des violences policières et pénitentiaires. Cette convergence est essentielle et urgente, car elle amplifie notre voix collective et elle renforce notre détermination à exiger justice et dignité pour toutes les victimes que nous estimons sur le compte des États. Nous refusons de considérer que certaines vies valent moins que d'autres. Nous appelons à renforcer les actions de solidarité et résistance collective du local à l'international, de la mer à la ville, en passant par le désert et les montagnes. Nous appelons à amplifier les mobilisations contre les violences policières, judiciaires et pénitentiaires, contre la criminalisation des personnes exilées, racisées et précarisées. Nous exigeons la liberté de circulation et d'installation et l'égalité des droits. Nous exigeons la vérité, la justice et la réparation pour les victimes des politiques migratoires et des crimes d'État et pour leurs familles. Nous proposons à tous les collectifs de familles des victimes des nécropolitiques migratoires, aux organisations et groupes de solidarité, aux citoyens et citoyennes de tous les pays du monde, d'organiser des actions dans le cadre de la commémoration globale du 6 février 2026. Frontières mortelles, violences racistes, nos luttes sont liées.
Pour nous, la commémoration, c'est un jour qu'on fête pour ne pas oublier ceux qui sont disparus sur la mer. Donc, c'est une journée de solidarité avec eux. Donc, pour aussi les faire savoir que, dont nous savons qu'ils sont au-delà, mais on est sûr qu'ils voient ce qu'on fait. C'est une journée qu'on fait pour un rappel aussi aux autorités qu'ils sont, comment dirais-je, ils sont les complices de ce qui se passe sur la mer.
On n'a pas la même mémoire, mais on a les mêmes histoires, celles des enfants d'Afrique, pleins de pouvoir, comme est mort, comme est mort, comme est mort. On n'a pas la même mémoire, mais on a la même histoire, celle des enfants d'Afrique, pleins de pouvoir, comme est mort. Comme est mort,
comme est mort,
comme est mort. Hey.
Bon, c'est une initiative que Alan Fon a initiée. Et je pense que moi aussi, je fais partie des personnes qui ont initié ça en 2018 à Ouzda. Je pense que dans le travail que nous faisons, bon, juste pour l'assistance des personnes en détresse en Méditerranée, en un moment donné, on a constaté que il y avait des suivis qu'il fallait faire. Et on a discuté largement de ça, de penser aux personnes qui partent et qui n'arrivent pas. Et je pense que c'est sur cette idéologie que nous avons initié cette action, qu'on peut dire, commémore action, pour ne pas oublier ceux qui sont disparus en mer. Et aussi, on a vu que c'était important aussi qu'il y ait des retours par rapport aux familles qui cherchent leurs proches et leurs amis et tout.
Le problème que une personne, n'importe quelle personne, a le droit de changer sa vie, ça veut dire quoi? De, s'il veut voyager vers l'Europe, vers l'Australie, vers d'autres pays, donc il a le droit de voyager sans qu'il y ait cette frontière qui le... c'est comme une barrière pour lui, pour, pour voyager. Donc, c'est la libre de circulation. Donc, la commémoration, c'est pour... On fait quoi? Pourquoi la commémoration? C'est pour parler des familles de disparus. Et les familles de disparus, pourquoi il y a les familles de disparus? Parce qu'il y a des personnes qui veulent voyager, qui veulent juste être libres de circuler partout dans le monde, quand ils veulent, mais parce qu'il y a cette politique de renforcement des frontières, il y a cette, l'Union européenne qui toujours donne de l'argent au Maroc. Moi, je parle au Maroc pour bloquer les migrants là-bas. Donc, il y a cette politique violente. Donc, c'est pourquoi donc, il y a ces disparus.
L'écume des vagues fait pleurer des cœurs. Le mien, c'est entre le marteau et l'enclume que j'aimerais le forger. Combien de rêves aux heures brèves ont fui à jamais, ont fait notre tourment. Combien de rêves ont fait prendre à notre vie un autre tournant. Des rêves qui se perdent dans une aube indécise, qui se revêtent d'une aube aux couleurs imprécises, mourant avant de naître, et naître plus qu'un souvenir au goût amer. Quand l'aurore baigne le jour de sa lumière, c'est le rêve enfoui avec lui, s'évanouit l'illusion de la nuit. Une douleur indicible nous transperce le cœur, et notre raison est en grève contre cette injustice qui nous malmène sans trêve. Je suis par un rêve trompeur qui me plonge dans la torpeur. J'ai trop peur de me retrouver face à la réalité. On n'a certes pas la même histoire, mais la mémoire reste la même.
Je suis debout ici avec le cœur meurtrier que le nom de commémoration même, ça sonne mal à l'oreille en fait. Parce que commémorer, c'est les décès et les disparus qu'on est en train de répéter à chaque fois que les drames se passent. C'est des morts qui se répètent et d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer et supporter même dans nos cœurs. Donc, raison pour laquelle on fait la commémoration, c'est pour dire que nous, les morts que ça cesse et de les dire que on les oublie pas, parce que les oublier c'est les tuer une deuxième fois. Donc c'est à cause de ça qu'on commémore, pour de ne pas les oublier. On dit que on se bat pour que ça se répète plus.
On n'a pas la même histoire, mais on a la même mémoire, celle des enfants d'Afrique. Plein de pouvoir, comme est mort. On n'a pas la même histoire, mais on a la même mémoire, celle des enfants d'Afrique. Plein de pouvoir, comme est mort.
Voilà, vous êtes à l'écoute de l'émission L'Envolée hors les murs du 16 janvier 2026. Vous venez d'écouter des sons pour rappeler une journée de commémoration des personnes disparues en mer à cause des politiques migratoires racistes et de leur brutalité. Et maintenant, pour poursuivre justement, on va vous laisser à l'écoute d'une émission qu'on a piquée à Minuit Décousu, une émission de Radio Canu à Lyon. Cette émission s'appelle Permis de tuer et revient sur les mobilisations contre les violences policières. Voilà, donc la semaine prochaine, on vous concoctera une émission de L'Envolée sur l'histoire des luttes contre les longues peines, les quartiers d'isolement et les morts suspectes en prison. Pour l'heure, on vous laisse à l'écoute d'une émission de Minuit Décousu. Pensée, force, courage et détermination à tous les prisonniers, les prisonnières et leurs proches. Et comme toujours, il n'y a pas d'arrangement. Avant d'écouter Minuit Décousu, on vous rappelle les contacts de L'Envolée.
Pour nous écrire, c'est fpp-l'envolée, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Vous pouvez nous contacter par mail à contact@l'envolée. Non, contact@l'envolée.net, ouais, c'est ça, pardon. Toute la semaine sur le portable au 07 53 10 31 95, en direct au 01 40 05 06 10, sur Instagram et sur Facebook.
Vous savez qu'il y a une légende terriblement érotico-radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran.
Il est 23h22.
C'est débrancher ses oreilles du monde.
Il est 23h54.
Pour les rebrancher sur un autre.
La radio la nuit, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier, quoi.
Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire? Comète venue d'ailleurs, est-ce que quelqu'un t'envoie?
Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent plus loin.
Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos histoires à vous aussi. C'est Minuit Décousu qui te parle.
On va se laisser porter dans la nuit.
Il est 3h.
La radio de nuit n'est pas mineure. Alors il y a moins de monde, mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi parce qu'ils écoutent vraiment, ils sont vraiment là.
Und verweigern. Lass uns alle zusammen die Wehranpassung boykottieren. Wenn die Briefe kommen, lass uns zusammenkommen und sie gemeinschaftlich dahin befördern, wo sie hingehören. Ob Mülltonne, Schredder oder Klo. Wehranpassung verweigern sowieso. Ihr kriegt uns nicht.
Wir sind laut, weil wir Hunde. Wir sind laut, weil wir Hunde.
Widerwärtig.
Et donc, ce que vous venez d'entendre, c'était un extrait sonore de la Schulstreik gegen Wehrpflicht, ou grève des écoles contre la conscription, puisque du coup, les députés allemands ont voté vendredi 5 décembre, c'était vendredi dernier, une loi qui rétablit la conscription, donc le service militaire obligatoire, pour tous les hommes nés après le 1er janvier 2008, avec pour objectif affiché de renforcer les effectifs de l'armée dans l'ambiance guerrière européenne que l'on connaît. Alors, c'est une décision qui a provoqué la colère des jeunes allemands et allemandes, qui ont été plus de 55 000 dans cet ordre-là, dans le pays, à sécher les cours pour aller dire qu'ils ne veulent pas de leur guerre.
Il est 23h07, vous êtes à l'écoute de la plus rebelle des radios, Radio Canu, le 102.2, et c'est Minuit Décousu qui commence.
Minuit Décousu, une émission de création sonore incroyable, des textes, des entretiens, etc. Et ce soir, une émission intitulée « Permis de tuer », dans laquelle on va sans doute revenir sur les malheureux et très récurrents meurtres de la police.
Et oui, puisque du coup l'année dernière, c'est pas moins de 71 personnes au dernier décompte de Désarmons-les, le collectif donc, qui lutte contre les violences policières, qui donc 71 personnes qui ont été tuées sous les balles de la police. Et nous, ce soir, on a décidé d'en découdre avec tout ça. Donc bon, on a allé exhumer un peu pas mal d'archives des luttes donc, contre la police et contre les violences policières. On va revenir à Vaux-en-Velin dans les années 80 avec les premiers forums justice. On ira aussi, je suis allé interroger la maman d'une personne qui est décédée donc, d'un meurtre policier à Vénissieux en 2022. On aura aussi une interview de flagrant déni.
Une interview qu'on allait piquer au Canu Info du lundi. On se demande là-dedans, mais que fait la police quand elle ne crève pas des yeux? Est-ce qu'elle contrôle la police?
Et puis, eh ben c'est pas mal. Ah si, voilà, j'ai oublié aussi, on aura un panorama un petit peu de l'abolitionnisme des États-Unis à l'Europe. En fait, on va un peu essayer de faire un peu une carte mentale de tout ce milieu anti-flic, comme disent les médias bourgeois, qui sont les personnes qui n'aiment pas la police. Finalement, on va se poser la question. Et puis, ce sera pas mal.
Vous écoutez Minuit Décousu, permis de tuer.
On ne peut pas tuer quelqu'un comme ça. On ne peut pas tuer quelqu'un comme ça. Il n'y a que à la police qu'on meurt dans leurs locaux. Il n'y a que chez eux. Il n'y a que chez eux qu'on meurt dans leur voiture. Moi, j'ai peur demain de me faire arrêter par la police. Et si je meurs, eh bien, c'est pas grave, j'aurais fait juste un malaise. C'est facile, les malaises, hein. Mais il n'y a que chez eux qu'on meurt avec des malaises.
Un flic de faction à la fouille d'un pot d'action, attendant l'occasion d'égler son gun pour un carton. À son actif, un flot d'arrestations bilan. Suspect menotté, non noté au fond du fourgon. Sans raison, l'escadron, les flics te passent à tabac.
Tout le monde, on a tous tort à un moment, tu vois. Mais chacun a sa petite raison. Peut-être que celui de 26 balais, il s'est déjà mangé, tu vois, une hagra. un soir comme ça, il était posé tranquillement, il s'en est déjà mangé une. T'en as peut-être qui sont déjà fait péter pour rien du tout. T'en as qui aiment pas les flics tout simplement. T'en as, ils savent pas pourquoi ils caillassent, mais ils vont caillasser parce que leur pote ils caillassent. Tu vois, c'est une spirale, c'est un engrenage. Après, tu peux te retrouver très vite à 20-30 personnes qui jettent des cocktails sur les flics, tu vois.
Une bavure policière, c'est la merde. En bas de chez toi, y'a 4 voitures qui brûlent.
Franchement, ses yeux, sa vie déboule. Sur ses joues, le sang coule. Shooter, un flic, c'est le fou. Pour une mère, le monde s'écroule.
Personne ne t'aime, t'es comme la police.
Ça me parlait dans le couloir du commissariat. Et puis, la version a évolué. Les policiers ont fini par dire qu'ils ne parlaient plus. Et que c'est arrivé au commissariat par magie qu'il est tombé dans le coma.
À chaque fois qu'une personne meurt entre les mains de la police, il y a un processus qui est identique à chaque fois, c'est la criminalisation de la victime à titre posthume, de façon à faire croire qu'elle serait responsable de sa propre mort.
Les victimes des violences d'État marchent pour la vérité, la justice et la réparation.
Dans leur dossier, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de truc. Nous, quand on avait fait des expertises indépendantes, il a fallu qu'on aille à la chambre d'instruction pour l'imposer parce que le magistrat ne voulait pas l'entendre. Le magistrat était prêt à entendre de fausses expertises parce que c'était un expert qui parlait, mais il n'était pas prêt à entendre les expertises indépendantes qui venaient contredire avec la vérité les choses.
Donc les faits sont produits, il a pris 7 ou 8 balles dans le corps et il a été immédiatement quasiment placé en garde à vue, puis jugé par un tribunal sur le fondement d'un dossier qui était complètement vide.
Donc voilà, faut qu'on s'unisse pour y arriver. Mais sinon c'est très difficile de se battre contre la justice, tout ça. Ils admettent pas leur tort même quand ils sont en tort. Ça a été prouvé dans plusieurs affaires, dans plusieurs dossiers. The coaches do the same thing, and Raheem do the same thing in our reality.
Y'all got 99 problems, and 12 still the biggest. Je pense que dans le fond, pour être honnête, hein, tous sont encodés. Quand on a mis dans une cité, à un moment on était victime d'une injustice. Après, on se dit peut-être que allez, c'est la bonne occasion de leur faire payer la justice qu'on a vécue. Every month, March 33, Nip got a heavy heart. It's killing Jay, I don't get that part. Cops kill lawfully, no remorse. I don't wanna hear arguments no more about black on black. White on white, kill their own two. And cops the only ones who ain't accountable. Black men in jail for an ounce or two. Talk about for us, it's punishable. Still ain't free. We got the weed business. White men making buku. And Timbuktu. Hope they praying at the mosque for us. When you create your own, you don't care what they top floors. Y'all 13 superstition, we get a 13th. Amendment. We get shot back without a shot back. Take the shot back and vaccine. Talk. See, it's murder, 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 murder. Hey, you wonder why we got it this soda.
C'est parti un peu des forums de justice qu'on a organisés sur Lyon.
Et
ça a été repris sur Marseille.
Ouais.
Ça a été repris sur Paris. Et puis on a lancé ça depuis le mois de juillet 83.
Ouais.
L'idée d'un rassemblement des mères de famille. Alors donc ça s'est pas fait comme ça. On a voyagé de ville en ville pour avoir des contacts, pour...
Avec toutes les familles que tu as pu avoir les coordonnées.
C'est ça, oui.
Voilà.
Mais c'est suite aussi aux forums de justice qui sont passés à Marseille, Paris. C'est, en même temps, dans ces forums de justice, il y a eu un regroupement des familles qui allaient à ces différents forums et qui discutaient entre elles pour parler de ce rassemblement et de cette association. Et ça s'est concrétisé le 21 mars. Pour les procès, on s'est dit donc, au lieu de toujours se battre le jour du procès, faire une manifestation avec l'association locale qui s'est occupée du procès, on n'aboutira à rien si ce n'est pas une prise de conscience nationale, si ce n'est pas faire le lien entre tous les procès et qu'à chaque procès serve au suivant.
Et voilà. C'est quelque chose de formidable, c'est une bonne initiative que tu as prise parce que finalement, le jour du procès de mon fils, ça a duré 3 jours. Arrivé sur le lieu, j'ai vraiment l'impression que nous, on était les assassins. Et l'inverse, la victime, c'était l'inverse. On s'est trouvé au banc de l'accusé. C'était plutôt nous qui étions accusés. J'avais vraiment cette impression, je n'étais pas le seul d'ailleurs. Mon mari a été tellement bousculé. Il ne pouvait pas supporter ça, qu'il est tombé raide, il est resté à l'hôpital qu'on a amené, et puis mes fils, c'est pareil. D'ailleurs, depuis ce jour-là, mes fils, ils sont complètement tu vois, tu te bats, moi aussi je me bats. Et c'est pour ça que je me bats tout seul. Parce que mes fils, ils sont tellement retournés par cette situation qu'ils se découragent. Et moi, je dis, c'est l'inverse. Moi, je ne peux pas croiser mes bras comme ça.
Malon, je le sais déjà, ce que je vois, je le transmets. Qu'ils n'ont ce qu'ils disent pas, et ça, le hip-hop nous permet. On a pris le parti de l'ouvrir pour ceux qui auraient...
21 mars 1984, place Vendôme à Paris. 14 familles de victimes de crimes racistes ou sécuritaires déambulent devant le ministère de la Justice à Paris, avec elles 200 personnes les accompagnent, parmi lesquelles des associations ou collectifs qui ont participé à la marche pour l'égalité 3 mois auparavant. À l'origine de leur mobilisation, l'assassinat raciste de Waïd Hachichi, lycéen vaudais de 18 ans, le 28 octobre 1982 dans le centre de Lyon par un badaud à sa fenêtre. Quelques jours plus tard, Abdenbi Gemia, 19 ans, habitant de la cité Gutenberg à Nanterre, est abattu au fusil par un pavillonnaire voisin. Inspiré par la mobilisation de maires des cités marseillaises après le meurtre de Laouri Ben Mohamed par des CRS au pistolet mitrailleur en 1980, la famille de Waïd, et particulièrement son oncle Naguib Alam, monte au créneau. Avec quelques amis du quartier des Écharmeaux à Vaux-en-Velin, il crée dans un premier temps Waïd Association, qui deviendra par la suite l'Association Nationale des Familles Victimes de Crimes Racistes, et qui existe toujours par ailleurs aujourd'hui sous le nom d'Association Nationale des Familles Victimes des Crimes Sécuritaires.
Nous sommes alors en pleine campagne électorale pour les municipales de mars 1983, marquée par une surenchère sécuritaire et une forte progression de l'extrême droite. Dès la rentrée 1982 à Bron, des élus d'une droite revancharde s'affichent avec la toute nouvelle association Sécurité individuelle pour tous. Ils alimentent un climat d'affrontement entre rapatriés d'Algérie, sud-européens et maghrébins, dont la cohabitation au sein des mêmes cités est parfois difficile. Le 28 septembre 1982, la tension endémique tourne au drame. Ahmed Boutelja, Algérien de 25 ans, est tué dans la cité transit de la ville suite à une énième conflit de voisinage. Son meurtrier, également habitant de la cité, faisait partie d'un groupe de légitime défense reprenant les vieux codes de l'OAS. Quelques semaines après, l'inspecteur de police chargé de l'enquête blesse grièvement un arabe lors d'une rixe et le bénéfice d'une libération conditionnelle. 150 policiers manifestent dans la rue en sa faveur. Le meurtrier de Waïd est lui aussi libéré le 16 mars 1983. 3 jours auparavant, la campagne municipale s'est terminée par un autre meurtre, cette fois-ci à Marseille. Une bombe explose à proximité de la cité de Cayolle, tuant un jeune voyageur.
Dans les métropoles, la colère monte sur les énièmes répétitions du même scénario. Violence des discours sécuritaires incitant la chasse aux délinquants, amalgame délinquance-immigration, zèle policier, complaisance des médias bourgeois, indulgence à l'égard des meurtriers, atermoiement de la gauche mitterrandienne au pouvoir. Alors que la plupart des meurtriers, qu'ils soient keufs ou civils, sont libérés, les jeunes non-blancs sont lourdement condamnés lorsqu'ils se révoltent. Alors que les organisateurs de la marche pour l'égalité privilégient un message plutôt consensuel visant à minorer les réalités plaçant les populations des quartiers en antagonisme trop important vis-à-vis de l'État, plusieurs groupes, associations et collectifs autonomes décident de lancer les forums justice. L'un des premiers, notamment organisé par l'association de Naguib Belham à Vaux en juillet 1983, c'est elle qui fait le travail de lien entre les familles qui cherchent à se coaliser.
Le premier forum de Vénissieux, puis un second la veille de l'étape lyonnaise de la marche pour l'égalité à Vaux le 28 octobre 1983. Waïd Association accueille un groupe de marcheurs qui écoutent les mères, sœurs, frères et amis des victimes. La tribune, qui rassemble des familles de Marseille, de Nanterre et des banlieues de Lyon, donne sens à ce schéma de violence contre les jeunes des quartiers populaires. Il ne s'agit plus d'une accumulation de faits divers tronqués par les médias, mais de violences systémiques produites par le racisme et la police. Il ressort de ce premier forum la volonté de dépasser les pleurs, par l'entraide entre les familles, mais aussi par l'interpellation des pouvoirs publics à tous les niveaux et le suivi minutieux des procédures judiciaires. C'est là que naît l'idée de constituer une association nationale des familles.
Jusqu'ici exprimée à la marge, la question des violences policières et des crimes racistes rattrape la marche pour l'égalité. Au Minguette, d'où tout est parti, des CRS tabattent 5 jeunes le 21 novembre. Mais c'est surtout la défenestration de Habib Grimzi par des légionnaires dans le train Bordeaux-Vintimille la nuit du 14 au 15 novembre 1983 qui va provoquer l'indignation nationale. Les marcheurs vont dès lors mettre au centre de leurs revendications le mot d'ordre de justice. À la veille de leur arrivée à Paris, ils se rendent à un forum organisé à Levallois par le collectif Jeunes. Le lendemain, les familles des victimes forment les premiers rangs du défilé, suivis par près de 100 000 personnes.
Guerre de tranchées, le facho a le sang chaud derrière ses rideaux retranchés. Penché sur son nombril, conscience débranchée. Chaque qui donne à une fin coup de canif dans le contrat. Pas de divorce à l'amiable, avec les miens tu m'affronteras. Écoute bien là d'où je viens, les bovins, il est sept, pas de mine. Minute ne tient que quelques secondes dans les kiosques et ça mine. Mine de rien, l'immigration et le chômage ils ne connaissent pas. Mais ils trouvent le moyen de voir des conséquences là où il n'y en a pas. Empâtés par leur radical, aveuglés par leur détresse. Tu vois pas pourquoi je braille la vue du peuple baisse. Baisseur de froc, collabo, temps évolu, mais le problème n'est pas pour autant résolu des brebis. Galeuse de traîne, entraînée, programmée par des nostalgiques de la croix gammée. Cheval de Troie réguidité par la tribu des damnés. Les années ont passé, pourtant regarde à l'horizon. Les consciences se dessinent dans les abysses de la réflexion. Élection, maléfique élixir dans la haine, ils se vautrent. Ils se permettent de rejeter leurs problèmes et leurs fautes sur l'autre. On réfléchit comme la guerre, la différence fait peur. Et les taux se resserrent autour des personnes de couleur. Douloureusement, se morfond dans le mensonge et dans l'hypocrisie. La crise d'hier alimente la haine de nos frères d'aujourd'hui. Induit en erreur, ces opportunistes névrosés refoulent le fait. En 40 les Allemands traitaient les Français de pognon. J'ai ta foncé, sourcils froncés, brassage ethnique prononcé. Trois nationalités dans mes gènes, la haine je reviens dénoncer, défoncer. Au micro le partisan, la peste brune sur le bitume. Le petit blond moyen broie du noir dans ses rêves écume le trottoir. Fasciste notoire, refait le monde au comptoir. Petit fureur du samedi soir qu'on retrouve dans les poubelles d'histoire. Style d'épicier polonais traitant ma merde macaroni. Ironie du sort, renie le destin de ses ancêtres. Ronnie, trop content de pouvoir en faire renverser la tendance. Accuse le bas année, tous les mots alors.
Si cette association pouvait s'étendre à d'autres mères, effectivement, qui n'ont pas encore, heureusement pour elles, été touchées, ça nous aiderait quand même bien. Parce qu'effectivement, nous, on est ici les mères, c'est ce qu'elle dit madame. On est les mères et on est dépositaires de la justice, du crime de notre enfant. C'est très dur. On a aussi notre famille à soutenir nos enfants. Moi, j'ai mes enfants qui sont tous en dépression nerveuse, sans travail, sans rien. Donc, on a des problèmes d'argent, on a des problèmes au niveau du travail. Moi, je travaille. Je me suis fait convoquer par mon patron en me disant que j'ai manqué de trop, en me demandant les raisons pour lesquelles je manquais et que c'était inadmissible. Ça, c'est très dur à supporter. Et je pense que si d'autres mères nous rejoignaient, qui, elles, ont encore leurs enfants, elles pourraient nous aider. Par leurs lettres, par leurs revendications, par leurs témoignages.
Moi, j'ai un petit mot de passe à passer. Le mien aujourd'hui, le vôtre demain. Alors que d'autres mères s'unissent à nous.
Je m'appelle Fatia. On se retrouve aujourd'hui devant un micro parce que mon fils Adam a été abattu par la police il y a 3 ans. Une instruction est en cours en ce moment, mais de nombreuses questions se posent autour des circonstances de sa mort. Une nuit d'août 2022, Adam avait 20 ans. Il se trouvait avec Ryan, 26 ans, dans une voiture stationnée sur un parking au carrefour de Vénissieux. Un équipage de police est arrivé et, faisant une recherche, constate que le véhicule, une Renault Mégane Sport, est signalé volé. Le chef de bord décide de procéder à un contrôle. Le conducteur aurait voulu se soustraire au contrôle, aurait fait une marche arrière, puis une marche avant, pour aller percuter le chef de bord qui se serait retrouvé sur le capot et aurait ouvert le feu pour sauver sa vie. C'est le récit de la police. Il tire 8 balles, dont 5 traversent le pare-brise, en visant la tête et le thorax. Il tue Adam sur place. Ryan décédera à l'hôpital quelques heures plus tard. L'un des coéquipiers, un stagiaire, tire 3 balles. Donc, officiellement, on a ce qu'on appelle un refus d'obtempérer, qui se solde par des tirs policiers en situation de légitime défense. Nous n'avons pas d'autre récit que celui des policiers, puisque selon eux, aucune image de vidéosurveillance de Carrefour n'est exploitable et qu'il n'y aurait pas de témoins. Les faits se déroulent à minuit. Nous n'avons aucun moyen de contester cette version des faits. Une seule parole, celle de la police, est à l'œuvre. Et donc cette parole qui maîtrise aussi la communication auprès des médias. C'est ainsi que les journaux du matin présentent les deux garçons dans la bouche de Gérald Darmanin comme très défavorablement connus des services de police. Ce qui n'est pas le cas d'Adam, qui est connu pour détention et usage de cannabis. C'est donc faux, mais c'est quelque chose de récurrent dans la stratégie de communication en cas d'homicide policier, le fait de criminaliser les victimes. D'ailleurs, le Progrès du vendredi, qui le qualifie de très défavorablement connu des services de police, corrige sa version le dimanche d'après en mentionnant un casier judiciaire vierge. Ce que je dirais, c'est que j'ai un certain nombre d'éléments qui posent véritablement question. Tout d'abord, il y a un premier élément extrêmement important qui a été, si je puis dire, lâché par le mis en cause lui-même, tandis que ses coéquipiers n'y font jamais allusion. Concernant la voiture volée, une Mégane Sport, le fichier national des voitures volées, consulté par les policiers avant d'intervenir, affiche une consigne qui est « la surveillance prime sur l'interpellation ». La surveillance prime sur l'interpellation. Il va quand même au contact. Pourquoi ? À notre connaissance, la question ne lui a pas été posée. Et ainsi, il est sorti du bureau du juge comme témoin assisté. Donc ça, c'est une première chose qui est, à mon avis, très importante. Pour nous faire nous poser la question de savoir, mais alors pourquoi ? Comme il y a cette consigne, avant d'intervenir, donc l'équipage appelle le centre de commandement pour la même recherche. Donc ils indiquent le numéro d'immatriculation et on sait que c'est à cause de cette consigne qu'ils appellent. Quand on questionne les coéquipiers, ils l'expliquent différemment en disant « Oh ben, il manquait des informations sur notre fiche, la fiche était incomplète ». Mais à aucun moment, il n'évoque cette mention de la surveillance prime sur l'interpellation. Et au moment des échanges avec le centre de commandement, juste avant l'intervention, deux des policiers prétendent que le centre de commandement leur commande d'interpeller. Les échanges avec le centre de commandement, nous, on les a écoutés. Et à aucun moment, il n'est question d'interpellation. À aucun moment, on ne leur demande d'interpeller. Il suffit que la personne au bout du fil confirme que le véhicule est volé pour que le chef de bord parte en action. Ça interpelle aussi ces policiers qui, bah, il faut le dire, mentent, donnent des informations absolument non seulement erronées, mais mensongères. Bah, on peut se poser la question de savoir s'ils sont honnêtes. Ensuite, au cours donc des auditions, les deux policiers qui ont tiré, lorsqu'ils sont auditionnés, présentent des schémas pour indiquer l'itinéraire que le fourgon de police a pris entre le moment où il se trouvait derrière feu vert à appeler le centre de commandement et à surveiller le véhicule et le moment où ils se sont retrouvés devant le véhicule volé pour l'interpellation. Eh bien, ces deux schémas sont contradictoires. L'un affirme qu'ils arrivent par la droite de feu vert et l'autre indique qu'ils arrivent par la gauche. L'IGPN ne relève absolument pas cette contradiction. Donc, questionnement encore. Qu'est-ce que je peux ajouter ? Donc, il y a d'autre part très peu d'empressement, à mon avis, à interroger des témoins. On a su par hasard, en auditionnant un témoin qui s'était présenté spontanément, qu'il y avait une personne sur le parking, dans sa voiture, qui était vraiment un témoin direct, qui a été témoin de la scène, et que l'on a invité à partir quand tout a été terminé, sans prendre ses coordonnées. Voilà. Est-ce qu'on n'avait pas besoin de connaître la vérité ? Est-ce qu'on n'avait pas besoin de son témoignage pour l'enquête ? Ça pose question aussi. Bon, bah, il se trouve que la personne a quand même été entendue, parce que le premier témoin a parlé d'elle en disant que c'était son amie, qu'elle était sur place, et qu'à ce moment-là, il ne savait pas qu'elle était sur place. Tous les témoins présents sur les lieux n'ont pas été interrogés. Je trouve que c'est problématique. Ensuite, sur les constatations sur le véhicule. La Renault Mégane, donc les faits se sont déroulés dans la nuit du 18 au 19 août 2022. Au matin du 19 août, il y a des constatations faites sur le véhicule, bon, qui est criblé de balles, etc. Et le PV indique que la carrosserie est en très bon état. Bon, c'est clair. La carrosserie est en très bon état. Bon, y avait juste un choc au niveau du pare-choc, mais on l'a su par le propriétaire du véhicule. Il était bien antérieur au fait. Eh bien, quelques mois plus tard, quand il est question de faire l'analyse, l'expertise balistique, l'expert note qu'il y a un enfoncement sur le capot du côté gauche. Et lors de la deuxième expertise, le deuxième expert note qu'il y a un enfoncement et des rayures. Il y a de quoi se poser des questions. Voilà. On a posé la question, on n'a pas eu de réponse. Mais je trouve ça très problématique, encore une fois.
On l'a tous entendu en manif, le fameux... Ou encore...
Tout le monde déteste la police.
Bon, alors vous êtes peut-être tombé par hasard ou non sur des étals de libraires de quartiers gentrifiés, sur les bouquins de Buenola Ricordo, de Mathieu Rigousse, de Didier Fassin, voire du collectif Matsuda.
Vous êtes aussi peut-être tombé sur des appels à rassemblement de la part de familles et de proches de victimes des violences policières, des appels à marcher contre les crimes sécuritaires, crimes d'État ou encore crimes pénitentiaires, que ce soit le comité Adama, le réseau d'entraide, vérité et justice, le collectif Désarmons-les ou encore des associations plus locales comme le collectif IDIR, Espoir et Solidarité ou l'association des victimes des crimes sécuritaires à Lyon. Vous êtes aussi peut-être tombé sur des émissions contre la tôle, contre les institutions, sur vos radios libres préférées, La Petite Cuillère à Lyon, L'Envolée ou Carapatage à Paris.
Un paysage politique très hétérogène où il n'est pas forcément évident de s'y retrouver lorsqu'on se penche sur la question de la police et de la prison. Qui défend quelle position et pourquoi? Si on a l'impression que l'idée d'abolition de la police a fait son chemin depuis les cortèges et sur les étagères des librairies les plus réformistes, la position n'est pourtant pas partagée par l'ensemble des personnes en lutte sur la question, héritières de traditions politiques parfois radicalement différentes, et pourtant capables de former un vaste champ critique du continuum policier et pénitentiaire. On se disait donc que ce serait l'occasion de profiter de l'émission de ce soir, d'essayer de débroussailler à gros traits ce paysage, en faire une sorte de carte mentale pour s'y repérer, tracer les héritages et les circulations d'idées pour essayer de comprendre comment, brique par brique et mur par mur, on détruit la police et les prisons, pour reprendre la formule.
A new book by legal scholar and civil rights advocate Michelle Alexander argues that although Jim Crow laws have been eliminated, the racial caste system it set up was not eradicated. It's simply been redesigned and now racial control functions through the criminal justice system.
Yes, thanks largely to the war on drugs, a war that has been waged almost exclusively in poor communities of color, even though studies have consistently shown that people of color are no more likely to use or sell illegal drugs than whites.
Well, are prisons obsolete? That's a controversial question that Angela Davis has never shied away.
An abolitionist perspective urges us to think about a whole range of other more creative ways of addressing the problems that prisons presume to address.
Je crois propose déjà qu'on répartisse en deux notre carte mentale. D'un côté, les États-Unis, de l'autre, l'Europe.
C'est très occidentalo-centré, pas mal.
Ouais, mais alors c'est ce qu'on connaît de mieux. Il y a eu des développements abolitionnistes en Amérique du Sud, notamment au Brésil et en Argentine, en Afrique, au Ghana, mais c'est resté assez circonscrit. En plus de ça, ces minuit décousu, on fait beaucoup avec peu de mots. Donc un des éléments explicatifs de ce développement des théories abolitionnistes, en fait, ça vient de trois origines assez différentes qui les relient aux deux continents. Le système monde esclavagiste du XVIe siècle au XIXe siècle, le monde colonial européen du XIXe siècle et le système concentrationnaire européen pendant la Seconde Guerre mondiale. On y reviendra plus loin.
Ensuite, à partir de cette répartition, on peut aller du plus ancien au plus récent. En Amérique, on partirait du côté des religieux Quakers américains, très tôt opposés à l'esclavage sur le continent américain, dont l'une des figures tardives dans l'opposition au système pénal est militante de la justice, la militante de la justice transformatrice, Ruth Morris. Pour l'Europe, on remonterait à ce qu'on appelle fréquemment les pères de l'abolitionnisme européen, Thomas Matthiessen, Luke Hulsmann et Niels Christie, criminologues scandinaves ayant pour certains connu l'enfermement dans l'Europe de la Seconde Guerre mondiale. Tous trois développent des approches critiques du système pénal, du décortiquage de la notion de crime à la dépossession de la justice par les personnes victimes de tort.
D'accord, d'accord, t'as fait de jolis dessins sur ta feuille A3 chipée au bureau de Radio Canu, mais on est encore loin de ce que je trouve en entrant chez le libraire.
Alors aux États-Unis, on peut distinguer grossièrement deux traditions théoriques et politiques dans le développement de la critique du système carcéral et de l'institution policière. D'un côté, on trouve une tradition issue de la théorie matérialiste et marxiste, qui considère l'extension du système pénal dans son ensemble comme un développement, une issue du capitalisme en crise. Le système pénal permet d'un côté de combler le manque à gagner des anciennes régions industrielles et agricoles en déshérence, avec les reconfigurations contemporaines de la division internationale du travail, et de l'autre, de contrôler une population surnuméraire toujours plus importante à l'écart de l'emploi salarié qui, se raréfiant, devient l'apanage des classes les moins précaires. Cette position, on la retrouve notamment dans les écrits de la géographe et militante abolitionniste Ruth Wilson Gilmore, qui avait écrit en 2007 un super bouquin sur le système pénal californien qui s'appelle Golden Gulag.
De l'autre côté, on trouve une tradition plutôt héritée des positions abolitionnistes de l'esclavage des Quakers et des esclaves en lutte pour leur émancipation. On trouve par exemple Michelle Alexander et son bouquin « La couleur de la justice » publié en 2010, dans lequel elle explique que l'origine de la police et de l'incarcération de masse est la directe suite du régime suprémaciste blanc, ou dans ses termes, des nouvelles lois Jim Crow. Selon elle, le système pénal américain participe aujourd'hui de la reconduction de la ségrégation raciale, notamment via la guerre contre la drogue qui vise prioritairement les personnes et les quartiers non blancs.
À cheval entre ces deux traditions, on trouve par exemple Angela Davis qui fonde avec Ruth Wilson Gilmore le collectif Critical Resistance en 1998, avec lequel les deux militantes s'attacheront à développer la notion désormais bien reprise de complexe militaro-industriel. Parmi d'autres héritières, on pourrait citer Mariam Kaba, une des voix les plus importantes de l'abolitionnisme de la police aux États-Unis, ou encore Jackie Wang, autrice du bouquin « Capitalisme carcéral », qui s'inscrit plus à mi-chemin entre l'héritage du marxisme, notamment en s'inspirant énormément de la théoricienne Rosa Luxembourg, de la critique du pouvoir de Michel Foucault et du Black Panther Party.
Donc on a la maman d'Adam. Donc Adam c'est un jeune homme. Donc il y a la photo ici, Adam, le 19 août 2022, alors que les personnes, la France se dorait sur les plages. Il y a eu deux jeunes qui ont été abattus sur le parking de Vénissieux, Carrefour. Je me souviens lorsqu'on a appris cette nouvelle par la presse, mais bon, c'était assez... assez succincte, hein, il n'y avait pas de détails, donc les détails, nous, on les a lus. J'ai lu par au courrier, au texte qu'a rédigé la maman, qu'a rédigé Fatiha, la maman. il y a eu une polémique. En fait, c'est souvent les policiers disent oui, le véhicule refuse d'obtempérer, nous a fonté dessus. Mais quand on constate que à la balistique, on s'aperçoit qu'il y a une impossibilité totale que les policiers aient pu tirer devant le véhicule. Et souvent, c'est pas possible dans ces circonstances de Adam. C'était pas possible qu'ils aient pu tirer dans les véhicules.
Alors, moi, j'ai ma petite idée sur le fait déclencheur. C'est ma vision personnelle qui est liée aux éléments du dossier que je connais. Et pour comprendre, il faut remonter à l'après-midi du jour des faits. C'est une séance que l'IGPN n'a pas inclue dans son enquête. Je tiens à le noter aussi parce que, à mon avis, elle constitue vraiment une clé de compréhension de ce qui s'est passé ce soir-là. We were born in the same lobby. You should have came properly. Nothing's gonna change even when you say sorry, even when you say sorry. Au moment où il prend son service avec son équipage, donc je vais l'appeler le chef de bord, hein. C'est lui qui est mis en cause. Apprend par téléphone que sa moto, qui est garée près de son domicile, dans le sud de Lyon, est en train d'être volée. Oulin, ce n'est pas leur secteur d'intervention, hein, à ces policiers-là. C'est en dehors du champ réglementaire. Pour autant, le chef de bord embarque aussitôt son équipage sur les lieux. Arrivé là, il repère les malfaiteurs et, au terme d'une course-poursuite dans les rues d'Oulin, il retrouve la moto abandonnée dans un parking. Très bien, il retrouve la moto, mais les voleurs ont pris la fuite. Du coup, il continue à patrouiller sur les lieux un moment. Ensuite, les collègues de la BAC qui sont présents leur demandent de partir en raison du fait que leur véhicule est sérigraphié et facilement repérable. Hein. Eux-mêmes, ils sont en train de surveiller et essayent d'appréhender les voleurs. Donc, à un moment donné, ils s'en vont. J'imagine que le chef de bord est très en colère, qu'il enrage même tellement qu'il revient pratiquement aussitôt. Ils font l'aller-retour et reviennent sur les lieux pour patrouiller encore. À mon avis, ils n'arrivent pas à se résoudre, à lâcher l'affaire. Ils ne supportent pas le fait que ces voleurs s'en tirent, quoi. Quand on questionne ses collègues sur son état d'esprit, évidemment, ils répondent qu'il est très calme, même très calme, pour quelqu'un qui vient de se faire voler sa moto. Ce n'est pas vrai. À mon avis, ce n'est pas vrai. Il a un sentiment de frustration énorme qui le conduit ce soir-là à intervenir en dépit de la consigne contraire, à viser la tête, à viser le thorax. Pour moi, bon, ça peut-être que ça paraîtra simpliste à certains, mais ça se tient parfaitement. C'est ce qui peut expliquer qu'il ne tient pas compte de la consigne et que tout à coup, il décide de se défouler sur qui il peut trouver devant lui, quoi. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, à partir du moment où il décide d'intervenir, pour moi, je ne peux plus rien affirmer. On ne peut pas savoir ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi ? Parce que les déclarations sont contradictoires, les témoignages, on ne sait pas exactement où sont situés les policiers, les véhicules. Les policiers apportent des témoignages vraiment très approximatifs, très flous, en disant qu'ils n'y voyaient rien, qu'il faisait très sombre. Et à les entendre, ils étaient dans une nuit totale et ils opéraient totalement à l'aveugle. C'est ce qui ressort de leur témoignage. Moi, je n'imagine pas ce qui s'est passé, je n'y comprends rien. Eh ben, j'en profite pour parler d'Index. Index, donc c'est une ONG d'investigation indépendante qui travaille au moyen de la modélisation 3D et qui est intervenue sur le dossier à la suite de l'expertise balistique. Il en résulte que le récit des policiers défie les lois de la physique et de l'espace. L'enchaînement des gestes nécessaires pour effectuer 5 tirs ciblés depuis une position couchée sur le capot du véhicule apparaît comme quasiment impossible. D'autant plus que cet enchaînement de gestes aurait été accompli en équilibre sur un véhicule en mouvement. Voilà, bon, maintenant, on attend la reconstitution. Hein. C'est ce qui nous apportera sans doute plus de clarté, en tout cas, on l'espère. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les éléments que je viens citer, quand même, posent question. C'est déjà un certain nombre de choses qui méritent d'être regardées de près, mais on a encore autre chose. Au départ du dossier, l'une des premières douches froides qu'on a reçues, nous, les parties civiles, c'est d'apprendre qu'il n'existait aucune image exploitable des faits qui se sont pourtant déroulés sur un parking d'un centre commercial sous vidéosurveillance. La fusillade a eu lieu dans un lieu surveillé, donc je m'attendais à ce qu'il y ait des images, mais non. On a évidemment un PV d'exploitation de la vidéosurveillance qui mentionne des caméras qui ne sont pas orientées sur le parking feu vert. Il est écrit que les vidéos n'apportent rien à l'enquête. Et on en garde une seule qu'on met sous scellé. Voilà, donc a priori, je n'ai aucune raison de douter de ce PV. Hein. Donc là, la vidéo qui est mise sous scellé, on a pu la visionner récemment. Et cette vidéo laisse apparaître une incohérence temporelle qui laisse penser que le film a subi une coupe. Voilà, on a 2 heures de lecture au lieu de 3. Nous avons demandé des explications. Et on les attend. I ain't trying to hear, I must have been buzzing. When you speak, it's like you're trying to win something. Flesh and blood, you can be my big cousin. Dès la fin 2023, j'ai saisi la défenseur des droits. Voilà. Alors, la défenseur des droits, ça fait 2 ans qu'on est en contact. Je la tiens informée de l'évolution de la procédure. En discutant, j'ai appris que la défenseure des droits pouvait avoir un pouvoir d'enquête. Voilà, que ce que je ne savais pas. Simplement, ce pouvoir d'enquête ne peut lui être octroyé que par le juge d'instruction. Donc, une demande a été faite et j'ai vraiment l'espoir qu'elle soit entendue pour mettre un peu de lumière sur toutes ces zones d'ombre en fait dans l'enquête.
Fonction publique, il y a une cellule disciplinaire qui s'occupe de manquements administratifs. Imaginez par exemple un prof de gym dont l'élève tombe dans un cours d'escalade. Si l'élève meurt ou s'il est gravement blessé, c'est pas du disciplinaire, c'est du pénal. Le policier qui n'a pas repassé son uniforme et qui a dit flûte quand on lui a fait remarquer, c'est traité par la même cellule que celui qui a blessé quelqu'un. C'est pas la même chose.
Si je le choque, je le tue. Quoi.
T'en crèves 2-3, ça calme.
Ouais. Là, ce serait bien de faire. Là, c'est vraiment les massacres.
Moi, j'ai envie d'aller tabasser.
Ouais. On veut jouer, y'a pas de soucis. Hein. On met tous 9 amas sans batterie et puis on a.
Ah, bah là, c'est ce qu'il faut. Des merdes comme ça, il faut les brûler.
On prend le FAMAS et bam.
Je m'appelle Catherine, je représente l'association Flagrant Déni, qui est une ONG qui fait de l'aide aux victimes de violences policières, qu'elles soient ou pas portées plainte, et qui fait de la recherche sur le fonctionnement de la police, essentiellement sur son dysfonctionnement, concernant les violences policières, la façon dont elles sont traitées, et qui fait du plaidoyer sur ces sujets.
Ah, c'est la guerre civile.
C'est pour ça, mec.
Il faut attendre 10 ans de gendarmerie pour vivre ça.
J'ai tiré 7 LBD, j'en ai couché au moins 4.
Mec, j'ai mis une pleine tête avec une sang.
À l'IGPN, il y a 25% des postes qui ne sont pas pourvus parce que plus personne ne veut y travailler. Tous les policiers détestent leurs collègues de l'IGPN. Les syndicats ne se cachent pas de pas du tout défendre leurs collègues de l'IGPN. Donc ça déjà, ça nuit au recrutement. C'est un service qui gère de moins en moins d'affaires, 10% des affaires de violences policières. C'est un service qui sert de vitrine aux enquêtes contre les violences policières, tout en faisant de moins en moins.
Le patron de la police des polices va nous répondre. Il est avec nous sur ce plateau, Stéphane Ardoin. Il va nous rejoindre dans quelques instants.
Alors d'abord, ce document, ce rapport, me semble assez biaisé, c'est un acte militant. Effectivement, on ne va pas déjà faire un procès d'intention en pensant que ce sont des policiers qui font mal leur travail.
Parmi les chiffres intéressants que vous avez publiés, ce chiffre donc que vous mettez en avant, comme quoi 3 affaires de violences policières seraient ouvertes chaque jour, et vous affirmez notamment qu'il y a eu une hausse entre 2016 et 2024 de 60% du nombre d'affaires ouvertes par personne dépositaire de l'autorité publique. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène de hausse des violences policières ?
Le phénomène de hausse, c'est le phénomène de hausse des signalements de violences policières. Donc ça, pour le coup, c'est pas nécessairement une si mauvaise nouvelle, parce que y a de toute façon un sous-signalement des violences policières. Si ça signifie que de plus en plus de gens se disent que c'est pas normal, c'est plutôt bon signe. Mais en tout cas, il y a clairement pas de baisse des violences policières. Mais comme l'IGPN traite de moins en moins d'affaires, et comme c'est la vitrine de la lutte contre les violences policières, on a l'impression qu'il y a de moins en moins d'affaires, ce qui n'est pas le cas du tout. On s'aperçoit à Sainte-Soline qu'il y a eu 200 blessés recensés, 4 plaintes. On voit la sous-représentation des plaintes par rapport à la gravité des faits. Donc quand on dit 3 par jour, on n'imagine pas en fait.
Vous dites que l'IGPN traite que seulement 10% des dossiers. Où est-ce qu'ils vont ces 90% de dossiers restants ?
Ces dossiers restants, ils vont dans des services disciplinaires de la police. C'est des services qui sont dans les départements et qui portent différents noms dans chaque département. À Lyon, c'est le service déontologie. Et donc, ils traitent des violences policières quand le procureur ne saisit pas l'IGPN. Et c'est différent de l'IGPN parce que c'est des services qui appartiennent à la police départementale. Donc il y a des gens qui travaillent dans le même bâtiment que les gens sur lesquels ils enquêtent. Donc forcément, ils se connaissent. L'IGPN, en l'état actuel des choses, c'est moins grave que les cellules déontologie. Hein.
Quand il y a des mouvements collectifs type violences urbaines, phénomène gilets jaunes, il y a des augmentations. On était à 1300 affaires en portefeuille en 2019. Nous sommes aujourd'hui redescendus. Peut-être qu'on augmentera après.
Ouais.
En tout cas, nous sommes dans des courbes qui sont logiques. Et pour le coup, nous pouvons cette fois-ci dire qu'il n'y a pas d'augmentation significative et que deuxièmement, le taux d'élucidation, pour le coup, est plutôt bon.
L'IGPN, c'est un service qui produit des statistiques sur ses enquêtes. On a, pour l'IGPN, le taux d'élucidation et toutes sortes de choses comme ça. C'est déjà pas brillant. Pour les cellules déontologie, ces chiffres-là, on les a pas du tout. Donc on ne sait pas du tout quel est le taux d'élucidation des enquêtes sur la police.
Dans votre rapport, vous parlez d'enquêtes de moins en moins efficaces et vous avancez notamment le chiffre d'une baisse de 25% du taux d'élucidation des violences policières depuis 2016. Alors comment est-ce que vous expliquez d'une part ces chiffres et puis pourquoi est-ce que le taux d'élucidation des affaires aurait baissé ?
Ah bah, on l'explique pas. Hein. Et c'est pas forcément à nous de l'expliquer, d'ailleurs. Hein. Si un particulier commet un crime ou un délit, il a 2 fois plus de risques de se faire choper que s'il est dans la police. Alors que les policiers sont des fonctionnaires qui ont une hiérarchie, qui leur dit d'aller à tel endroit faire telle chose, ils ont un RIO, donc un numéro qui les identifie si toutefois ils le portent. Donc on ne se l'explique pas et on demande des explications à ce sujet. Ce qu'on pense, c'est que s'il y a si peu d'élucidations, c'est qu'il y a un problème d'indépendance des enquêteurs. Dans un procès dernièrement, on a entendu une enquêtrice d'une cellule déontologie dire « Mais je n'ai pas mis en cause la parole du collège, mais je n'avais pas à la mettre en cause ». Je ne sais pas si vous avez déjà été mise en cause par la justice, mais enfin, votre parole, vous avez intérêt à pouvoir la prouver. Hein. Il n'y a que dans la police où on répond à l'enquêteur et l'enquêteur prend pour argent comptant ce qu'on lui dit. Quand les enquêtes sont faites comme ça, ça peut expliquer un taux d'élucidation assez faible.
Quand même, ça va se reprendre en un titre, le problème de la police, c'est la justice. Et ça, c'était une phrase d'un syndicaliste, enfin le président du syndicat Alliance, lors d'une manifestation en présence de Gérald Darmanin, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur en 2022. Et vous reprenez cette phrase à votre compte. Alors pourquoi est-ce que le problème de la police, c'est aussi la justice? C'est quoi les relations entre la police et la justice?
Ce n'est pas la cellule déontologie qui se saisit elle-même des affaires, c'est le procureur qui dit il y a une affaire et qui saisit soit l'IGPN, soit la cellule déontologie. Donc plutôt la cellule déontologie parce qu'il n'y a plus personne pour s'en occuper à l'IGPN. Et le problème du procureur, c'est que contrairement à ce qu'on voit à la télé, les juges français n'enquêtent jamais. Ils font faire toutes les enquêtes par la police, dans toutes les affaires. Et du coup, quand il y a une affaire impliquant un policier, ils peuvent pas vraiment forcer la main aux policiers pour enquêter, parce que les policiers pourraient leur mettre des bâtons dans les roues dans toutes les autres affaires.
L'IGPN, et ça a toujours été le cas, est un service qui est un service spécialisé, ouais. Comme un office central, que l'on va saisir dans des cas qui sont d'ailleurs prévus par une circulaire de la Direction des affaires criminelles et des grâces, la gravité, la complexité, la sensibilité.
Alors c'est uniquement les cas graves, mais comment est-ce qu'on détermine la gravité d'un cas?
Alors, dans le cas de l'usage de la force, lorsqu'il y a un décès, lorsqu'il y a une blessure, et en général une blessure évidemment significative. Cela peut être aussi des cas de maintien de l'ordre qui posent évidemment un certain nombre de problèmes. On l'a vu dans différentes séquences ces dernières années.
Il y a quand même un chiffre qui est intéressant que vous sortez. Donc l'IGPN, souvent, ils ont tendance à dire « Oui, nous, on est saisis devant des affaires des plus graves. » Or, vous démontrez qu'il y a quand même dans un quart des 433 homicides policiers que vous avez recensés depuis le début des années 2000, il y a, dans un quart des cas, c'est même pas l'IGPN qui est saisi. Ça, c'est quand même intéressant comme donnée.
Il y a des cas qui vont jusqu'à la mort d'un usager qui sont traités par les cellules déontologie. Le critère, et c'est pas la gravité, c'est la capacité des victimes à trouver un avocat, à médiatiser leur affaire. Et donc c'est ça aussi qui est d'une injustice incroyable. Et notamment dans les DOM-TOM, il n'y a aucun cas d'homicide policier qui soit traité par l'IGPN. Donc sur les DOM-TOM, il y a certainement beaucoup d'autres choses à dire. Mais en tout cas, sur ce sujet-là, c'est clairement des territoires de seconde zone.
Donc la loi de février 2017, dite loi Cazeneuve, ministre de l'Intérieur de François Hollande. Cette loi, donc relative à la sécurité publique, autorise les policiers français à tirer sur les occupants de véhicules, même lorsqu'ils ne représentent pas une menace immédiate. À partir de là, on a noté clairement une augmentation des tirs policiers mortels et qu'on incluait toujours dans un cadre de refus d'obtempérer. Donc des études sérieuses ont été faites, notamment par Sébastien Rocher, Paul Le Derf et Simon Varenne, dans la revue Esprit de 2022, où ils mettaient clairement en corrélation cette loi et l'explosion du nombre de décès suite à des interventions policières. Peut-être que cette loi mériterait d'être interrogée. Ça a été le cas l'année dernière, l'année dernière, il y a deux députés, l'un du Parti Socialiste, j'ai oublié son nom, et un de Renaissance, qui ont remis un rapport qui, en gros, disait que rien ne prouvait que l'augmentation des décès suite à des interventions policières était liée à cette loi. Oui, ils ont osé l'affirmer. Et même l'un d'eux reconnaissait que peut-être le champ d'utilisation des armes avait été quand même élargi. Eh bien, il disait qu'il ne valait mieux pas mécontenter les policiers. Et donc, qu'il fallait toucher à rien. Voilà, sur d'autres familles qui ont vécu la même chose, oui, je suis en lien avec un certain nombre de familles. J'ai assisté à quelques événements organisés en mémoire de victimes et pour réclamer justice et vérité. Alors, j'avoue que j'ai pas beaucoup d'énergie et je suis pas des plus actives. Hein. Mais je suis dans la boucle, je me tiens informée. Et c'est assez terrible ce qui se passe. C'est plombant même de voir ce qui se passe, en particulier pour les personnes en détention qui décèdent. Alors là, c'est kafkaïen. 20 ans après Ziyed et Bouna, la situation a empiré en termes perpétrés par les policiers. Voilà, je permets de nommer Ziyed et Bouna puisqu'on est en plein dans... On est en plein dans la commémoration de ces deux garçons morts pour n'avoir pas été secourus par des policiers.
D'autres, l'instruction continue, ça fait 3 ans, on avance très lentement. C'est le temps de la justice qui est long, c'est ce qu'on nous dit. En tout cas, chaque demande d'acte, chaque demande prend un temps fou. Et on vit perpétuellement dans l'attente de réponses. Et après les réponses, d'autres réponses encore. Voilà. Mais on continue. On ne baissera pas les bras.
Moi, je peux juste te dire, une nuit d'été, le ciel m'est tombé sur la tête et aujourd'hui, je rampe sous les décombres.
Un combat, un douleur, violence pénitentiaire, un combat, même douleur, violence pénitentiaire, même combat, même douleur.
On s'y retrouve plus en studio, là. T'as laissé traîner tes feuilles de partout, bébé.
Désolé.
Bon, on reprend ton truc. Là, on causait de l'abolitionnisme aux États-Unis.
Si on suit la logique, faudrait regarder de l'autre côté de la feuille. T'écris vraiment mal, Pélo, c'est grave.
Des policiers enquêtent sur les policiers. Évidemment, l'esprit de corps fait qu'ils vont pas menacer leurs collègues, mais ça va au-delà de ça.
Quand on regarde les publications académiques sur les questions des violences de la police, on ne dit plus du tout les mêmes choses qu'on pouvait dire il y a 10 ans. Il y a eu tout un travail militant et aussi académique qui a permis de dévoiler l'étendue d'un phénomène de masse qui permet qu'on prenne conscience que non, c'est pas un drame individuel, c'est quelque chose qui est systémique, qui est lié au rôle de la police.
Abolir la police, c'est une proposition qu'on n'avait jamais entendu en fait, et du coup on a été hyper étonnés d'entendre cette proposition politique et tout ce qu'elle ouvrait quoi comme imaginaire.
La dynamique centrale de l'institution judiciaire consiste à, par des mécanismes propres, à couvrir ce fonctionnement de la police, aussi parce que la justice et la police dans ce système-là doivent travailler ensemble en permanence pour maintenir ce qu'elles appellent l'ordre public, mais qui est en fait un ordre social inégalitaire.
Les cops, c'est comme des coups de batte, récoltent des caillasses sur leur caisse, leur casque en caisse, reviennent à la charge.
Mais qu'est-ce qui se passe
en, quatre...
en Europe, et plus spécifiquement en France, les premiers à s'intéresser à la police est avant tout les luttes locales dans les quartiers populaires, autour de Paris, à Vénissieux, à Vaux-en-Velin, ce sont aussi les maires de la place Vendôme en 82. C'est aussi le mouvement Immigration et banlieue, les jeunes de Damary Lélis entre 2001 et 2002, qui se mobilisent contre la police sur le versant des violences et du contrôle social permanent qu'elle exerce sur les jeunes noirs et arabes des quartiers populaires. L'évolution de ces collectifs, dont certains iront nourrir le comité Adama après 2016 ou encore le réseau Entraide, Vérité et Justice, porte dans le débat public une autre vision des crimes policiers. Une réfutation point par point de la médiatisation des affaires faites par le ministère de l'Intérieur. Le fait aussi d'aller porter devant les tribunaux les incohérences des déclarations, des PV et des petites manœuvres de l'IGPN.
Pour autant, l'ensemble de ces collectifs, même avec l'évolution et l'élargissement de la critique de la police au cours des années 2010, et plus encore après le tournant du mouvement de révolte suite à la mort de George Floyd en 2020, ne porte pas une perspective abolitionniste de l'institution policière. À la place, une liste de revendications précises visant à désarmer complètement la police telle qu'on la connaît. Interdiction des armes non létales, des clés d'étranglement, des pare-chocages, du délit d'outrage. Au-delà même des pratiques, des secteurs ou divisions entières sont visés. Fermeture des quartiers d'isolement, des quartiers disciplinaires dans les tôles, suppression des équipes de matons cagoulés. L'attention est portée sur la fabrique de l'impunité judiciaire, donnant libre cours au permis de tuer des flics et des matons.
Élaboré à l'aise, laisse l'écho MCJZ sur le bas-côté. Au pied du métis gradé, dégradant ton esprit petit à petit fils. Sache qu'un flic sans flingue flippe de se faire fumer. Seul sans son gang tiki, faut pas se moquer. Ils n'ont que leur gun pour se faire respecter. Condé va donc demander à Cassie des pides ex, voir s'il a pas un Kleenex.
Sur notre feuille, assez proche de ces collectifs, on pourrait trouver les positions d'un collectif comme Désarmons-les, qui s'est formé au début des années 2010 dans le contexte de la militarisation croissante de la police face aux mouvements sociaux et aux révoltes des quartiers populaires. Un collectif qui s'ancre dans la tradition des mouvements anti-autoritaires contre les violences d'État. Une position qu'on retrouve dans une perspective plus universitaire avec Mathieu Rigouste, chercheur indépendant en sciences sociales, auteur du bouquin « La domination policière ». Issu de la tradition des sciences sociales françaises appliquées au service de l'émancipation, la ligne de Mathieu est à la fois anti-autoritaire et anti-coloniale. Il décrit l'institution policière française s'inscrivant dans une généalogie coloniale qui se réalise aujourd'hui dans un apartheid socio-racial des quartiers populaires.
Pour faire le pont entre les deux côtés de l'Atlantique, entre l'abolitionnisme carcéral puis celui de la police et la lutte contre les violences policières et pénitentiaires, on trouve depuis un moment un certain nombre d'autoristes et militantes comme la camarade Gonola Ricordo qui s'inscrit pleinement dans l'héritage libertaire anticarcéral français tout en mettant à jour et en permettant la circulation des pensées abolitionnistes américaines et européennes dont on parlait plus tôt. Mêlant à la fois des bouts de Michel Alexander, d'Angela Davis, de Mariam Kaba, mais aussi des pères fondateurs de l'abolitionnisme européen. D'autres collectifs semblent avoir depuis poursuivi cette dynamique, comme le collectif Matsuda, auteur en 2020 du bouquin « Abolir la police ».
J'ai la cachette qui me démange. À chaque fois que je renifle l'odeur d'un keuf et ça me dérange étrange. Changement de comportement, muscles qui se contractent. Toi sur la détente, vas-y.
Appuie, chèque ton crève, t'en vis depuis ta plus tendre enfance.
Face au con des guises, des fils, ton aiguise, ton arme. Les nuits sont bleues, difficile de ne pas s'ouvrir. Face au con des guises, des fils, ton aiguise, ton arme. Bercé par les sirènes, t'endors pas sur tes lauriers. Face au con des guises, des fils, ton aiguise, ton arme. La vie est une arène où les cops te prennent pour gibier. Face au con des guises, des fils, ton aiguise, ton arme. Bercé par les sirènes, t'endors pas sur tes lauriers. T'endors pas sur tes lauriers.
Des porcs armés aux trousses qui d'une balle plongent la course dans le caniveau du non-lieu.
Dans ce pays merdique,
y'a un képi pour une casquette.
La douce France casse du bronze et bébé.
Aucune censure que les keufs flinguent des jeunes dans le commissariat. Aucune censure que les chômeurs sont pétards par les CRS. Aucune censure quand ces mêmes CRS foncent des une église et casse.
Je vois des femmes sans crever.
Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
J'aime pas ton drapeau.
Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
Justice.
places, c'est simple. 20 personnes, ils vont de l'autre côté. Le reste, ils restent là. Et la tête de ma mère,
on veut 40 places.
On manifeste pacifiquement. Les habitants, ils font le pas. Ils disent, nous, on va pas laisser faire. On va prendre les choses en main. On va s'occuper de nos gamins. On va s'occuper de nous. Si ça, c'est négatif, qu'est-ce qu'il faut?
Pas de justice, pas de paix.
C'est une ville de 23 000 habitants. C'est une petite commune. Et on a déjà 3 morts. Abdelkader Bouziane, Xavier et Mohamed Berichi. Et sur ces 3-là, la police, elle a été mise en cause dans les 3 affaires. Et dans ces cas-là, la police, elle a toujours su s'en tirer dans les 3 affaires. Dès le départ, la thèse de la légitime défense a été invoquée comme d'habitude. Et pour Mohamed Berichi, c'est un accident.
Parce que tu ne cherches qu'à monter. Je crois que c'est lieu quand même ce procès. C'est une victoire.
Ben non, c'est une chose normale. On va pas nous faire croire parce qu'on est en train de juger un policier aujourd'hui, 10 ans après, que c'est une victoire de voir quelqu'un passer pour un crime qu'il a commis.
C'est juste ressortir l'innocence étouffée sous l'oseille.
Depuis plus de 10 ans, les victimes des violences d'État marchent pour la vérité, la justice et la réparation. Pour afficher leur volonté d'union, de soutien et de solidarité mutuelle, elles ont décidé de se constituer en réseau d'entraide, vérité et justice. Ce réseau rassemble des collectifs de familles de victimes tuées, de blessés, de mutilés, ainsi que des collectifs contre les répressions et les violences d'État. Les dérives de l'utilisation de la force par les personnes dépositaires de l'autorité publique ne cessent de s'aggraver à l'encontre de toute la population. Des violences répétées, permanentes, qui ne sont ni de bavures, ni des dérapages, ni des faits divers isolés.
Si nous marchons aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour dénoncer des injustices actuelles, c'est aussi pour inscrire notre lutte dans une histoire longue, une histoire qui a commencé bien avant. Dans les années 1980, des maires se sont rassemblés place Vendôme devant le ministère de la Justice. On les appelait les folles de la place Vendôme. Elles étaient là pour leurs enfants morts à cause du racisme, des violences policières, l'impunité. On les traitait de folles parce qu'elles refusaient le silence. Aujourd'hui, nous sommes leurs héritières, nous les mamans. Comme elles, nous refusons d'abandonner nos enfants au mensonge et à l'oubli.
Plus encore que pour les violences et les crimes policiers, la France est aussi régulièrement mise à l'index, nationalement et internationalement, dans des rapports dénonçant ces conditions inhumaines et dégradantes de détention. Mais en France, en prison, on ne fait pas que vivre mal. Comme nous le dénoncions lors de notre marche de mars dernier, la prison tabasse aussi en bande organisée et tue en silence.
Si défendre nos enfants fait de nous des folles, alors oui, nous porterons ce nom avec fierté. Leurs combats n'ont jamais cessé. Ils sont devenus les nôtres. Et tant que des mères, des pères, des frères, des sœurs pleurant, des enfants morts dans des prisons, des commissariats, des cellules, nous serons là. Tant que des vérités seront étouffées, nous parlerons. Tant que la justice choisira le silence, nous marcherons.
On est revenu à une période coloniale. C'est-à-dire qu'on peut rentrer chez les gens sans aucune procédure valable, pas valable. C'est pas grave, on rentre, c'est des bicots, c'est des bougnoules, on fait comme on veut. C'est ça qui se passe en vrai. C'est pas autre chose. Et je pense qu'il faut appeler à une manifestation assez rapidement pour être dans la rue et faire un truc carré.
Préférons te parler de la dépolitisation des mômes plutôt que de leur ignorance à eux sur les mômes et sur leur façon de faire et d'agir. Et c'est ça, tu vois, et ça qu'il faut réinverser pour ma part. Moi, je pense que le savoir, la culture politique des mômes qui passe pas par les mêmes références qu'eux, bah, doit pouvoir être aujourd'hui quelque chose d'appréciable.
Votre nom, il rentre dans l'histoire. Toutes les personnes qui sont là aujourd'hui,
justice en banlieue, justice en banlieue.
Et du coup, on tenait quand même à remercier pas mal de personnes qu'on a pu enregistrer à Minuit Décousu, dans des rassemblements ou ailleurs. Donc il y avait Hawaii Gay que vous avez pu entendre, du coup, rassemblement pour les violences policières et pénitentiaires en 2021 sur la place Bellecour, un entretien avec Farid Eliamni, frère de Wissam Eliamni, du coup décédé dans les années, donc début 2010. On a entendu aussi Najet Kwaki au micro, Naguib Alam et pas Belham, je suis désolé, je crois qu'il y a une coquille qui s'est glissée. Un gros big up aussi au Canu Info, du coup pour l'entretien avec Flagrant Déni, et bien sûr on fait des bisous à Fatia, du coup la maman d'Adam, qui nous a accordé cet entretien il y a quelques semaines de ça.
Trop d'entre nous sont tombés sous les balles de la police ACAB.